Pratiquer la vertu en 9 points. C'est le chapitre 5, les strophes 54 et 55. Ainsi, nous avons eu quelques bonnes semaines de pause dans les enseignements de Bodhicharyavatara sur le net. Comme vous savez, j'ai été en Europe et j'ai voyagé et visité plus de 25 endroits dans 12 pays différents d'Europe. Et j'ai passé vraiment un très beau moment à rencontrer mes amis. Et nous avons eu tous ensemble beaucoup de moments magnifiques. C'était comme une longue vacance, comme de longues vacances, comme un pique-nique, et je suis plein de gratitude envers tous les gens qui m'ont reçu avec tant d'amour et de respect. Ça a toujours été comme cela. Je pense que je dis toujours la même chose. Vous savez, quand je suis allée pour la première fois en Europe, je pense que c'était en 1989, je n'avais aucun désir d'y aller. Et c'est Kong Rinpoche et Sojal Rinpoche, en fait, ensemble, ils m'ont sollicité et ils m'ont demandé de venir juste pour une visite. Et je l'ai fait un hiver à la période de Noël. Et je ne l'ai pas aimé du tout. Mais alors, je suis allée retourner. Parce que j'ai ressenti que les gens m'aimaient. Les gens semblaient tirer bénéfice des enseignements. J'ai pensé qu'il y avait quelques besoins du Dharma en Occident, et c'est pourquoi j'y suis allée et j'y suis retournée maintes et maintes fois. Et maintenant, cela fait plus de 22 ans que je voyage en Europe chaque année, et c'est devenu presque... En fait, c'est devenu mon pays. Et maintenant, je suis de retour au Sikkim, qui est aussi mon pays. Et ainsi, maintenant, nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire au chapitre 5. Le thème du chapitre 5 est l'introspection vigilante, ou en tibétain, on dit « shejin ». Nous étions au milieu du chapitre et je pense qu'il n'y a rien de mal à avoir fait une pause. C'est un cours, c'est un enseignement, nous l'appelons Shedra, mais ce n'est pas comme un vrai Shredda où vous allez et vous étudiez très fort et vous avez des examens et vous réussissez les examens et toutes ces choses. C'est plutôt l'étude de la pratique. Nous avançons lentement, nous réfléchissons sur chaque strophe, nous étudions et nous réétudions encore, et nous lisons et relisons maintes et maintes fois, nous réfléchissons sur le texte et nous essayons de l'utiliser dans nos vies. Et si nous pouvons utiliser même seulement une ou deux strophes, ou une ou deux instructions vraiment bonnes tirées de ce texte, alors je pense que cela aura été très utile. Et maintenant, nous en sommes à la strophe numéro 54, et elle dit ceci. Ainsi, examinez-vous vous-même de tous les côtés, de tous les angles. Prenez note de vos émotions négatives et de vos efforts stériles. Car ainsi, les héros sur la voie du Bodhisattva, avec détermination, s'attaquent à ces poisons avec les remèdes appropriés. Oui, nous avons besoin d'observer nos pensées, nos émotions, nos paroles, nos actions, et nous constatons si nous agissons ou réagissons avec des émotions négatives et si nous faisons quelque chose qui est nuisible à nous-mêmes et aux autres, maintenant et à long terme. Et si nous faisons cela, nous le comprenons, nous le voyons clairement. Alors, nous comprenons l'inutilité de faire cela. Nous comprenons combien ces actions sont inutiles et combien ces actions sont nuisibles. Et c'est pourquoi il n'y a absolument aucune utilité, il n'y a absolument aucun besoin de faire cela, parce que cela n'est d'aucun bénéfice ni pour moi, ni pour qui que ce soit d'autre. Et en comprenant cela, alors, nous en voyons la vanité. Avec cela, si en faisant ce qui n'est pas très utile, nous faisons quelque chose qui nécessite beaucoup d'efforts et nous utilisons beaucoup d'émotions, donc beaucoup de notre énergie, et si cela ne permet pas d'atteindre un but utile, alors vous comprenez aussi cela et vous pensez au chemin, à la voie des grands bodhisattvas, mes héros, mes exemples. Je pense aux héros, à ces héros. Que feraient-ils? Comment agiraient-ils? Comment réagiraient-ils? Et alors, je devrais être ferme avec moi-même et essayer d'agir de ces façons-là, c'est-à-dire les manières propres de façon à remédier à ces fautes et à ces actions. Si je le fais moi-même, alors ce n'est pas si difficile, parce que je suis responsable de moi-même. Comment j'agis, comment je réagis, comment je ressens, ne peut pas être décidé par quelqu'un d'autre que moi-même. Ainsi, je peux décider comment je devrais agir, je peux décider comment je devrais réagir, je peux décider et réagir de la façon la meilleure qui soit pour moi et pour les autres. C'est ce que je veux. Alors, j'essaierai d'utiliser cette méthode-là. Et ainsi, j'essaierai de pratiquer de la façon suivante, en les 9 points que Shantideva a conçus, a tracés comme fil conducteur. Et voici ces 5 points. Avec une foi parfaite et inébranlable, avec constance, respect et courtoisie, avec conscience et déférence, travailler calmement pour le bonheur de tous, de tous les autres. Le premier est Shintunyepa. Le mot tibétain est Shintunyepa. Je pense que ici que la traduction anglaise est probablement la foi parfaite, la dévotion parfaite. Mais Shintunyepa veut dire vraiment être sûr, être clair. Et j'ai besoin tout d'abord de comprendre comment pratiquer, ce qui doit être fait au début, ce qu'il faut faire au milieu et ce qu'il faut faire à la fin. J'ai besoin de savoir comment pratiquer très bien. Si je ne sais pas comment pratiquer, je ne peux pas pratiquer. Et c'est pourquoi nous étudions Bodhicharyavatara pour apprendre comment pratiquer. Bodhicharyavatara, c'est un enseignement sur comment pratiquer les autres choses, comme les instructions sur le dharma, les enseignements depuis les quatre nobles vérités jusqu'au Mahamudra et Dzogchen, sont tous sur le thème de comment pratiquer. Ainsi, nous devons apprendre la manière de pratiquer très clairement. Ça, c'est le premier point. La compréhension parfaite, la clarté. Peut-être qu'on peut dire la foi parfaite. Une foi inébranlable. Quand votre esprit est très clair sur comment vous pratiquez les choses et pourquoi vous pratiquez ceci, vous avez la foi, vous avez la clarté, vous avez besoin de dévotion. Vous savez pourquoi vous faites ceci et comment vous devez le faire. Et c'est pourquoi la foi inébranlable, ce n'est pas avec beaucoup de doutes ou si c'est pas avec des absences de clarté. Ainsi, une fois que vous avez ces deux choses, vous avez la compréhension claire de ce qu'est la pratique et de comment on pratique, alors, parce que vous avez cette clarté, vous avez la foi. Vous êtes certain, vous avez la certitude au sujet de ces choses, et ça, c'est la stabilité. La persévérance. La persévérance est très importante parce que chaque fois que vous avez envie de changer, vous pensez peut-être qu'il y a quelque chose de mieux que ceci, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre que ceci, quelque chose de plus fort ou quelque chose de mieux ou quelque chose de différent. Et alors vous sautez d'un endroit à un autre, ça, cela ne va donner aucun résultat. Alors quand nous sommes clairs, nous avons une vision claire du chemin et de la façon de pratiquer, alors nous persistons. Il n'y a rien qui soit comme la bouddhéité instantanée. Tout a besoin d'être pratiqué et encore pratiqué. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être persévérants. Nous comprenons très clairement, ou quand nous comprenons clairement ce que la pratique est vraiment et que nous la comprenons en profondeur, alors nous avons la certitude que toutes ces différentes voies, toutes ces différentes manières sont les mêmes. Et il n'y a rien qui vous permette de faire ceci et en deux jours vous avez le résultat. Ça n'arrive jamais. Et aussi nous devons avoir cette persévérance. Ensuite, c'est le respect. C'est, je pense, le quatrième point. Et ici, respect veut dire le bonheur, la joie, vous êtes heureux. Grupa. Grupa est le respect, mais aussi il y a une sorte d'inspiration. Vous êtes inspiré, vous avez l'inspiration, vous êtes très heureux de travailler sur ce respect et vous avez du respect pour la voie. Vous vous y intéressez profondément et vous en êtes inspiré. Maintenant, la courtoisie. Parce que vous avez ce respect et cet intérêt pour la pratique, vous avez cet intérêt pour le dharma, alors vous avez aussi la gratitude, vous avez une politesse, une courtoisie. Vous estimez vos enseignants, vos maîtres, et toutes les choses qui vous ont apporté ces circonstances et qui vous ont apporté la compréhension de cette pratique. Ça, c'est la courtoisie, le cinquième point. Le sixième est la conscience. La conscience est le fait que vous puissiez observer votre esprit et savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Si je fais quelque chose de faux, j'en suis honteux. Si je fais quelque chose de bien, je me sens bien, je me sens plein de gratitude, je me sens joyeux, je me sens fier de moi. Et j'ai cette conscience, j'ai le sentiment, je ressens ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Et quand je fais quelque chose qui est faux, qui n'est pas bien, eh bien, je me sens pas bien. Ça, c'est la conscience. Et alors, la déférence. Cela veut dire que j'ai de la déférence. Je sens que je reconnais combien sont les grands êtres, comment ces grands êtres le font. Et je me sens humble. Je me sens humble en face des grands bodhisattvas et des grands êtres. Je n'ai pas peur. Peur n'est pas le mot tibétain ici. Jigpa est comme peur. Mais ici, ce n'est pas vraiment la peur. C'est la déférence. C'est le sentiment de me sentir humble parce que je vois les qualités des autres d'une façon très claire. J'ai la capacité de voir les qualités positives des autres, excusez-moi. Et à cause de cela, je me sens humble et j'ai du respect. Et j'estime et je vois leur grandeur. Et je ressens la déférence pour les grands bodhisattvas et pour les maîtres et pour les enseignants et les gens qualifiés, les grands. Il y a beaucoup de gens qui sont très bons et je pense, je ressens aussi qu'en fond, en face d'eux, je me sens humble, je ne suis pas grand-chose, je dois agir, je dois étudier, je dois pratiquer, je ne dois pas être arrogant ni fier. Et c'est très important parce qu'autrement, si je fais une petite chose et parce que je ne vois aucune meilleure qualité dans les autres, je ne vois pas les bonnes qualités des autres et je ne vois pas leurs qualités cachées. Aussi, je me sens le meilleur. Personne ne sait mieux que moi ou personne n'est mieux que moi. Je suis le meilleur ou quelque chose comme ça. Ça ne va pas, ça ne marche pas. C'est pourquoi j'ai besoin de cultiver cette compréhension. Cette faculté de voir les qualités positives des autres. Alors, travailler calmement. Ainsi, l'une des nécessités les plus importantes est de calmer mon esprit, parce que la pratique principale est de rendre mon esprit calme et paisible. Apporter la paix à mon esprit, ça c'est la pratique principale. Apporter le calme à mon esprit. Et quand il y a des émotions négatives, quand il y a trop de négativité en moi, alors ce n'est pas la paix. Je ne peux pas être calme. Mais si je suis trop affectée par ce qui arrive autour de moi, si je me sens trop blessée ou si je me sens trop affectée par les actions et les réactions des autres et des choses comme ça, ou si j'ai gagné ou je n'ai pas gagné, ou si on m'a fait des compliments ou on ne m'en a pas fait, si je suis l'objet de respect ou si je ne le suis pas, si je suis trop sensible, alors cela me trouble trop. Ainsi, je décide de ne pas être trop troublée. Et c'est pourquoi j'apporte du calme et j'apporte de la paix. Personne d'autre ne peut faire cela à part moi. Je dois apporter à mon esprit ma propre paix. Je dois me calmer. Si je ne le fais pas, rien ne peut le faire. Et il n'est pas possible de trouver un lieu ou une situation ou une société nulle part, à n'importe quel moment, un endroit où tout autour de moi, où chaque chose qui arrive est parfaite. Et c'est pourquoi, si j'ai besoin d'être heureux, si j'ai besoin d'être calme, si j'ai besoin d'apporter la paix à mon esprit, j'ai besoin de le faire par moi-même, à l'intérieur de moi-même, en dépit de toutes les choses qui ne sont pas parfaites et en dépit de tous ceux qui ne font pas nécessairement les choses justes. Et enfin, le neuvième point, le dernier, mais pas le moindre, c'est pour le bonheur des autres. Ainsi, pour toutes ces choses-là, pourquoi est-ce que je le fais? La raison principale est pour le bonheur de tous les êtres, des autres êtres. Pour tout le bonheur ou pour nous tous. Je pense que seulement de dire de le faire, c'est bon pour les autres, oui, ça c'est ce qui est dit ici, mais quelquefois je pense que ça donne le sens que c'est seulement pour les autres et pas pour moi. Non, non, ce n'est pas comme ça, c'est pas comme ça que je pense. C'est pour nous tous. Et si tout le monde est heureux, cela me rend heureux. Si tout le monde devient meilleur, moi aussi je me sens meilleur. Si toutes les choses tout autour de moi deviennent paisibles, alors il n'y a pas de raison pour laquelle je ne ressente pas la paix. Et si tout autour de moi, tous autour de moi, deviennent riches et prospères et heureux, alors cela crée du bonheur pour moi. Et c'est pourquoi c'est aussi pour moi, c'est pour les autres. Ceci, et si c'est pour tout le monde, c'est pour nous tous. Je dois faire ceci pour moi, pour les autres, pour ma famille, pour mon pays, pour mon monde, pour tous les êtres, parce que c'est comme cela que cela doit être. Et avec cette sorte de compréhension, alors nous pratiquons. Et nous pratiquons cette méthode en 9 points. Ainsi, je pense que je vais juste faire ces 2 strophes cette fois-ci, et puis nous continuerons. Merci beaucoup.